dans les couloirs du grand monastère bénédictin où il a été placé dès l'âge de 5 ans pour son éducation et en vue de sa vocation. On aurait voulu qu'il devienne père abbé. Le petit Tommaso est connu pour être celui qui arrête les moines dans les couloirs, qui va les trouver et qui leur pose inlassablement la question « Qui est Dieu ? Qu'est-ce que Dieu ?» Après, comme je vous disais au début de cette Eucharistie, après le cycle de l'année liturgique, l'Église nous donne de nous arrêter sur cette question et de rentrer, de pouvoir contempler, de s'ouvrir à qui est le Seigneur. Le Seigneur que nous adorons, que nous louons, que nous glorifions. La réponse du catéchisme, vous la connaissez, on dit « Dieu est Trinité ». Un mot composé, un mot qui, pour les gens d'aujourd'hui et malheureusement pour nous, peut paraître un peu bizarre, qui dit à la fois 3 et 1, 3 en 1, 3 égale 1. Et de ce mystère essentiel de notre foi, comme disent les professions de foi des pères de l'Église, voilà ce qu'il faut croire pour être sauvé. Eh bien, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, peut-être, de rentrer dans cette intelligence parce que nous avons perdu dans notre monde nos références chrétiennes. Et alors les uns considèrent cela comme une folie, une élucubration incompréhensible, des trucs de théologiens, et puis que de toute façon on ne peut pas comprendre, et du coup on ne se met pas à regarder ce que c'est. Ou les autres, eh bien, crient au scandale, et dans leur profession de foi même, ils disent qu'il n'y a pas trois dieux, il ne peut pas avoir, Dieu ne peut pas engendrer, etc. Et ils posent même une malédiction sur ceux qui le professent. La révélation de la Trinité, de Dieu unique, Père, Fils et un Saint-Esprit, n'est pas le fait des hommes, de leur invention. Mais c'est un fait qui vient de la révélation elle-même. C'est Dieu qui révèle et qui nous partage son secret, qui aboutit dans le Nouveau Testament avec Dieu est amour. On pouvait être étonné dans la première lecture, mais il n'y a pas de référence à la première, à la Trinité dans la première lecture, au livre du Deutéronome. Mais il fallait d'abord, et il faut toujours, établir que Dieu est un et que cela est indiscutable. L'Ancien Testament, tout le parcours de l'Ancien Testament nous a été donné pour nous faire sortir du polythéisme avec Abraham, puis Moïse et puis les prophètes. Sortir de ces dieux, c'est-à-dire de ces représentations des forces qui nous gouvernent et de vouloir s'y asservir, de les servir, mais en s'y asservissant. Qu'elle soit d'ailleurs dans des images de la nature religieuse ou qu'elle soit dans des valeurs telles qu'un monde qui veut se décharger de Dieu aujourd'hui professe, mais qui n'empêche suit des forces avec l'argent, etc., entre autres. Voilà. Mais notre texte ici établit ce qu'il y a de fondamental, c'est que ce Dieu unique, il est celui qui se révèle et qui fait de nous, on dira aussi ailleurs, son bien particulier, qui fait de nous ceux qui vont partager son intimité. C'est déjà au début de l'Ancien Testament et cela avance. Et cette unité de Dieu et ce partage de Dieu, ça se développe tout au long de l'histoire du salut, notamment par exemple dans Isaïe qui a dit « Dieu seul et seul, il n'y a pas d'autre Dieu ». Et puis dans les livres de sagesse où on a ce sens, cette sagesse, cette intelligence de Dieu, eh bien elle est créatrice, c'est elle qui crée. Mais il en fallait plus pour que nous arrivions à découvrir ce secret de Dieu, et c'est dans la révélation de Jésus. Et on voit alors maintes fois des références, à commencer par l'Annonciation, où il est annoncé le Fils, et c'est l'Esprit qui vient couvrir Marie de son ombre, et puis au baptême de Jésus, et puis toute sa vie, la transfiguration, et puis de beaucoup d'endroits, mais surtout dans ce partage que Jésus nous fait de sa prière, dans ce partage qu'il nous fait de son intimité avec Dieu. Et nous avons repassé cela toutes les dernières semaines du temps pascal avec les chapitres 16 et 17 de Saint Jean. Et nous voilà dans cette présence de Jésus que nous reconnaissons être Dieu, et qui s'adresse à son Père, et qui nous envoie un autre paraclet, et avec cette Pentecôte où l'Esprit de Dieu des biens nous est donné. Alors, il a fallu, dans l'Église, qu'au long du chemin, eh bien, on s'est posé la question, mais cette révélation qu'on ne pouvait pas penser, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et il fallait en rejeter les choses incompréhensibles dont on nous accuse aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, eh bien, engendre la génération en Dieu? Alors effectivement, si on le pense d'une manière matérielle, si on le pense comme faire une création de sortir quelque chose de soi, ou si on le pense comme... Si on le pense de sortir quelque chose de soi, ou si on le pense comme du passage du non-être à l'être, ben c'est pas possible, parce que sinon c'est plus Dieu, puisque Dieu, il est celui qui est. Et alors ils ont travaillé, alors ils ont discuté, ça s'est passé sur plusieurs siècles, mais comme le petit Thomas, eh bien, le petit Thomas d'Aquin, ils ont passé leur temps à qui est Dieu. Cette question qui devrait nous travailler, qui est-il ? Il nous montre son visage, mais quels sont les traits de son visage? Je parle des visages de Jésus, mais le visage de Dieu lui-même. En effet, alors ils sont arrivés, alors ça paraît peut-être des raisonnements compliqués, mais il fallait retirer, et pour nous c'est important qui voulons travailler à la nouvelle évangélisation, qui voudrions porter à tous d'apprendre la manière le plus simple possible, mais à rendre compte de notre foi. Alors évidemment, si Dieu engendre, ce n'est pas pour faire passer du non-être à l'être, mais c'est l'acte de Dieu qui se connaît. Et quand il se connaît, eh bien, l'image, le verbe, ce qui est dit de lui, c'est lui tout entier. Il n'y a rien dans le Fils qui ne soit dans le Père, il n'y a rien dans le Père qui ne soit dans le Fils. Et voilà ce don total de l'être, cette unité totale, telle que nous pourrions rêver, car effectivement, quel est le malheur de l'homme? Le malheur de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à connaître, enfin le malheur, la condition de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à connaître dans sa totalité. Nous essayons de nous comprendre, nous essayons de nous connaître, mais c'est toujours partiel. Et nous ne connaîtrons, nous le savons bien, comme le dit l'Apocalypse, que quand nous arriverons au ciel, dans la totalité. Comme le dit, c'est le livre de Coëlette qui le dit déjà, hein, l'homme a la grâce de pouvoir connaître le monde, mais il n'en connaît pas l'alpha et l'oméga, il n'en connaît pas la totalité. Dieu, lui, quand il se connaît, c'est tout entier. Alors on dit c'est une nature, trois personnes dans notre credo. Hein? La nature, c'est qu'est-ce que c'est cette chose-là? Qu'est-ce que c'est? Hein? Et Dieu, j'allais dire, si j'osais, excusez-moi, mais c'est une chose, un être, un. Quand on dit la personne c'est qui? Qui est-ce qui? Qui opère? Qui fait? Alors voilà, quand Dieu se connaît, c'est le Père, le principe. Et quand il est connu, le fruit de cette connaissance, eh bien, c'est le Fils. Mais c'est tout Dieu, c'est tout entier. Il y a une chose, alors ensuite, le Père, quand il s'admire, dans le Fils, et quand le Fils se reconnaît dans le Père, c'est un tel échange, c'est un tel élan, c'est un tel souffle, c'est une telle flamme que vous avez ici le mot d'esprit, hein, c'est l'origine du mot esprit, et bien que cet amour, cet échange, ce don, c'est aussi une personne. Et c'est ce don de l'admiration réciproque du Père et du Fils qui se connaissent et qui sont connus et qui rend grâce, et bien c'est cet esprit qui nous a été donné dans la confirmation, qui nous est donné à Pentecôte, qui nous est donné tous les jours dans la prière et les sacrements. Et nous voilà en possession, j'allais dire, le mot est un peu fort, mais de pouvoir ouvrir, de pouvoir s'ouvrir à cet amour, cette unité de Dieu qui est cet échange, qui est cette communion et qui est le fond de l'être de Dieu, c'est-à-dire le fond aussi qui se retrouve dans la création et que Dieu veut partager avec nous. Bien sûr, ça a été difficile. Et bien sûr, il y a beaucoup de tentations pour l'intelligence. Alors, vous retournerez dans les catéchismes ou les choses qui expliquent. Il y a ceux qui disent, ben, c'est pas possible parce que c'est pas un Dieu de trois personnes, c'est un Dieu une personne. Et puis, quand on parle de Fils, d'Esprit Saint, c'est des modes de parler, c'est des attributs du Père qu'on attribue, mais il y a une seule personne qui agit. Non, le Père est un, le Fils est un, l'Esprit Saint est un de la même unité. Le Père est infini, le Fils est infini, l'Esprit Saint est infini, et je pourrais continuer, ils sont incréés chacun. C'est cette même réalité, cette même substance, on dira, hein, cette même être, mais qui est dans cet échange d'amour qui nous est donné. Et voyez, Jésus nous invite, et pour être sauvés, nous invite invite ses apôtres à être baptisés dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Le nom, c'est vraiment l'être, hein, Dieu un, mais qui est cette communion d'amour. Et il nous appelle à être baptisés, c'est-à-dire à être plongés dans cette intimité de Dieu, que Dieu nous a ouvert, et on le voit bien avec Jésus. Jésus vient nous ouvrir. S'il nous appelle, s'il peut nommer son Père Abba, comme des fils qui connaissent la volonté du Père, qui sont dans cette intimité du Père et qui ne sont pas des esclaves et qui n'ont pas besoin d'avoir peur, etc. C'est cette prière que Jésus nous donne pour nous faire rentrer dans cette intimité. À nous d'apprendre à contempler qui est Dieu, à nous d'apprendre à savoir rendre compte, à nous émerveiller et d'apprendre à rendre compte, non pas pour tout expliquer, mais nous avons sûrement à faire un effort de s'approprier cette beauté de Dieu, cette source de vie, cette source d'amour, cette source de connaissance que le Seigneur veut partager avec nous, dans laquelle il nous fait entrer. Amen.